Radio
01.net présente.
Inférieur à 3.
Avec
Fibre Tigre
et Michel Pimpon.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, vous êtes dans Inférieur à 3, vous nous retrouvez maintenant le vendredi sur Synops Live. Bienvenue à ceux qui nous découvrent après le Grand Geek. Inférieur à 3, c'est votre émission sur les jeux vidéo qui les explore de façon diverse et variée avec des chroniques et surtout des chroniqueurs. À mes côtés ce soir, nous avons Michel Pimpon et Fibre Tigre. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Alvin.
Alors maintenant, à partir de cette émission, vous nous retrouvez en alternance avec le Boudoir Gambetta après que le Grand Geek. Par contre, au niveau du contenu, ça ne change rien. Le Game Shark, le Game Genie, le Courrier des Haters. Mais on va commencer par les VHS.
La VHS.
La VHS, c'est un jeu qu'on a retrouvé à un endroit assez improbable, bon, rarement dans un être humain, mais en tout cas, on les a retrouvés par je ne sais quel moyen, et ce soir, Fibre Tigre va nous parler d'Albion, un jeu signé personne, justement.
Oui, alors Albion, ça vous rappelle peut-être un jeu de rôle de Blue Byte, un petit jeu de mots peut-être, Michel ? Non ?
Pas du tout.
Et donc un jeu de rôle avec des qui se passait dans un pays imaginaire avec des furries. C'est quelque chose qu'aime beaucoup le musicien de l'émission qui s'appelle DJ Pie.
On l'embrasse, bien sûr.
Voilà, on l'embrasse. Mais non, là, je vous parle d'un autre Albion qui remonte dans les années 80. Donc, à l'époque de l'Atari ST et de l'Amiga. Je ne sais pas si vous êtes plutôt Atari ST
Team
Amiga.
Amiga. Ouais, d'accord, Team Amiga, ouais. Pour toujours.
Bon, alors, je serai Team Atari ST, du coup. Et je parle justement d'un jeu Atari ST. Et donc, à l'époque, il y avait une scène de créateurs indépendants. Alors qu'il n'y avait pas Internet. Et donc, on s'échangeait les disquettes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait beaucoup de virus sur les disquettes.
Absolument.
Et donc, un anonyme a créé un jeu qui s'appelle Albion, qui est injouable. Il l'a fait à partir de graphismes digitalisés d'animés qui passaient à la télé. Donc, les Chevaliers du Zodiac, les Mystérieuses Cités d'Or...
voilà. Cobra, ce genre de trucs, plein de trucs.
Alors
quoi.
Cobra, je me souviens pas, mais oui, Robotech, voilà, surtout.
Ah, ouais,
donc un jeu complètement amateur. Donc bon, saluons quand même le fait de digitaliser des graphismes. Aujourd'hui, on va sur YouTube, on fait un imprimé écran, Photoshop, c'est facile. Là, à l'époque, c'était pas évident de passer au format.
Bah, il n'y avait pas de scanner, c'était un peu la galère.
Exactement. Il a fait un jeu qui tient sur deux disquettes Atari et avec une intro particulière de 30 minutes, hommage à Metal Gear Solid peut-être, avant qu'il sorte.
La visionnaire sur ce coup.
Voilà, et donc une intro d'une demi-heure. Curieusement, on pouvait couper en mettant directement la disquette 2.
Astuce.
Voilà, c'est ça. Le jeu, courtoisement, ce qui connaissait ses faiblesses, disait « Voulez-vous l'introduction ?» Et je dis « Non, ouf, oh, tu pouvais jouer. » Malheureusement, le jeu est injouable, c'est-à-dire c'est une sorte de RPG vue subjective avec des verbes, donc il y avait un peu de tout, et aussi des séquences d'action où il fallait cliquer sur attaquer.
Déjà des QTE en fait, en
quoi
plus.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Des QTE, c'était visionnaire,
oui,
vraiment.
Oui, voilà, mais
c'est du button mashing, il faut être un peu
voilà,
technique.
Mais ceci étant, autant l'introduction est très longue, autant le jeu dure pas très longtemps parce qu'il est très déséquilibré, il est fait par quelqu'un, je pense, qui faisait ses classes. Le pauvre, il a même pas signé son jeu, c'est pour dire.
Voilà. Il le porte pas dans son cœur.
Non, je pense qu'il avait peut-être peur des représailles au niveau des droits, je sais pas. Ce jeu, la ROM est assez difficile à trouver, mais vous pouvez la trouver si vous tapez Albion Atari ST et que vous cherchez suffisamment. Bon courage. En tout cas, ça permet de voir. De découvrir la scène indépendante de l'Atari ST de l'époque qui compte des centaines de titres amateurs.
Alors, Michel Pimpon,
Team Amiga.
Est-ce que la frustration d'avoir été Team Amiga n'est pas juste exacerbée
mais
ce
alors,
soir ?
Pas une seconde, Alvin, parce que sur la Team Amiga, vous pensez bien que la démo scène, comme on l'appelle, ou démo scene, quand on est plutôt anglo-saxon, elle est gigantesque. Bon nombre de petites démos, plus ou moins techniques, ont donné naissance à des vrais jeux.
Et même à des studios qui existent toujours, il me semble.
Oui.
Je crois Team 17 qui ont fait Worms ont commencé.
Ils ont commencé.
Petite démo scene.
Ah, c'est possible ça. Écoutez, moi j'ignorais ce détail, mais voilà, la vivacité dont parlait Fibre, c'est aussi, on la trouve sur Amiga, elle est au cœur de
l'Amiga.
Mais l'Amiga,
il ne faut pas que je sois hypocrite quand même jusqu'au boutisme, l'Amiga c'est une machine supérieure qui a surfé sur Internet. En 90, vous pouviez aller sur Internet avec un Amiga, bon, il fallait trafiquer un peu les choses, et l'Atari ST, bon, on a atteint ses limites maintenant, de cœur, je suis Atari ST de cœur, voilà. comme il y a des gens, ils sont pour certaines équipes de foot.
Ouais, bah moi c'est Team Amiga Forever. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose. C'est moins une question de graphisme ou de puissance de calcul, évidemment, puisque là on est en train de parler de deux calculettes qui sont scotchées ensemble en matière de puissance. Mais c'était l'attrait de l'Amiga, c'était une question de son, à mon sens. C'est une question de son parce que les haut-parleurs et la stéréo que proposait l'Amiga, et pour peu qu'on eût même. Subjonctif imparfait, les enfants. Pour peu qu'on eût le moniteur officiel de l'Amiga, parce qu'on n'était pas obligé. Voilà, c'est pas un achat contraint comme pour l'Atari. On peut brancher l'Amiga sur sa télévision. Oui, monsieur. Je vous vois, oui, hausser les épaules, mais c'est vrai. Eh bien, ce moniteur officiel proposait des haut-parleurs qui mettaient en évidence les qualités stéréophoniques de l'Amiga à un degré jamais entendu.
Merci.
Non, j'avais demandé si on pouvait écouter des symphonies sur Amiga, mais je ne suis pas certain.
Évidemment.
Que ce soit le
vrai. Évidemment.
Est-ce que c'était une expérience plaisante ?
Non, mais attendez, vous ne connaissez pas la chanson, là ? Il y a une chanson
Merci,
qui s'en fait.
Only
Amiga Make It Possible.
Très bien. On va aller l'écouter sur YouTube après l'émission.
On mettra un lien.
Et on mettra un lien comme à chaque fois. On passe à une autre VHS. Alors pour le coup, cette fois-ci, c'est un mini disque vidéo avec Assassin's Creed Street View Legacy. Alors une expérience bizarre.
Oui, bizarre mais belle, puisque bizarre. Voilà. Alors comment dire ? J'ai été suffisamment sévère avec Ubisoft dans les précédents numéros d'Inférieur à 3 pour reconnaître parfois la beauté de leurs idées et les fulgurances qui peuvent se trouver au cœur même de leurs projets, même les plus ambitieux. Le concept dont je vais vous parler, on le trouve, on le trouve au cœur de Assassin's Creed 1, et en fait on en a assez peu parlé parce qu'on a dit « Ah c'est génial Assassin's Creed 1, les croisades... »
Mais le 2 est mieux.
C'est un autre débat, mais voilà, Assassin's Creed 1, les croisades, blablabla, la lame secrète, les templiers, et on fait du parcours, on court sur les murs. Génial.
What?
Ok, c'est cool. Mais la belle et grande idée, je trouve, dans Assassin's Creed 1 qui n'a pas été relevée, c'est que quand on découvre une nouvelle ville dans Assassin's Creed, et même un quartier d'Assassin's Creed, en fait, on n'a pas la carte. C'est pas un mec qui dit hey, « Tiens, vas-y, prends cette carte, ça t'aidera avec cette nouvelle épée et cette boussole. » On la découvre tout seul, et pour avoir une certaine vision complète d'un quartier, on est obligé de repérer dans IRL, si j'ose dire, donc dans l'univers du jeu en 3D, on est obligé de repérer des tours. Donc il faut bien lever les yeux, il faut bien fouiller avec la caméra, etc., etc. Les tours autour desquelles d'ailleurs tournent des aigles, de manière un petit peu obsessionnelle si vous me posez la question. Et une fois qu'on a escaladé la plus haute tour du jardin, du fond de la cabane du pêcheur, il faut se synchroniser. Voilà, bon, c'est juste là, t'as un super...
super effet, la caméra qui tourne et les
petites
étoiles dans les yeux.
Et en fait, à quoi ça sert dans l'univers du jeu, c'est que ça permet de débloquer, non pas la zone, puisqu'on pouvait y aller auparavant, mais toutes les informations de la zone. Donc, en un sens, le jeu permet d'écrire la carte du jeu.
C'est pas mal.
Ce qui est foutrement intelligent, si vous me permettez cet adjectif et cet adverbe. Et ce concept-là, donc, qui est au cœur d'Assassin's Creed 1, c'est l'idée de base d'Assassin's Creed Street View Legacy. Street View Legacy, le principe, c'est que on transpose ce concept-là dans le monde réel, cette fois-ci, mais pas le monde réel de l'univers en 3D du jeu que vous proposez, mais dans notre vrai monde réel.
Vrai monde en 3D est réel.
Exactement. Il ne s'agit pas... Alors, n'allez pas vous équiper tout de suite de magnésie et de baudrier, les amis. Il ne s'agit pas d'aller escalader la plus haute tour du jardin de la cabane du pêcheur. Il s'agit de trouver des endroits spécifiques... Alors, pour l'instant, ça se passe à Paris. Des endroits spécifiques dans Paris... avec un petit tag qui a été posé en mode on est des rebelles, des stickers à la sauvage.
Ils auraient pu mettre des Space Invaders, ils ont mis des QR codes moches.
Voilà, c'est un QR code moche ou avec un petit logo Assassin's Creed
View.
Et avec l'application qui va avec, ce que ça permet, c'est que ça permet de débloquer tel ou tel quartier, tel ou tel arrondissement, et d'obtenir on pouvait s'y promener avant, mais on obtient des informations super intéressantes qui permettent d'alimenter votre paranoïa, bien sûr, et le complot qui permet de nourrir à son tour la paranoïa. Donc ça, c'est super cool, et ça permet de débloquer au fur et à mesure, donc c'est un augmented reality game, ARG, augmented reality game, et ça me permet de placer un gros big up des familles au jeu Battle Paris, que connaît la famille, que connaît également bien l'ami Fibrotique ici présent, puisque c'est une superbe idée qui reprend en partie ce système-là, mais pour faire des batailles de clochers, si vous me passez cette expression.
Et pas des batailles de clochards, attention, hein. pas ce genre de choses ici.
Et je dis donc, allez jouer à Battle Paris.
Alors, est-ce que tu as déjà pris ta clé bêta pour Battle Paris, si vous dites, ou est-ce que la version Assassin's Creed te tente plus?
Alors, j'ai mieux que ça, puisque Battle Paris, j'ai écrit des biographies de villes pour Battle Paris, et notamment Saint-Maurice, parce que je me suis tapé des villes de banlieue, et j'ai fait une biographie très marrante, c'était sur la chanson, on l'appelle un lover, on l'appelle un joker, mais non, certains l'appellent Maurice, tu vois, et là, c'était Saint-Maurice. Et après, j'ai raconté une histoire hyper bateau, du style Saint-Maurice, c'est une ville avec une église et en face une boulangerie, et ville normale. Bah,
une ville, quoi.
Voilà, exactement. Mais j'ai eu beaucoup d'enthousiasme.
Donc, tu as écrit pour Battle Paris, parce que tu y jouerais?
Oui, allez, j'y jouerai. Non, mais si, c'est bien, c'est des bons jeux.
Maintenant qu'il y a de la 4G partout, on a de l'internet partout, on peut sortir, c'est bon.
Non, mais il y a énormément de choses à faire. Simplement, les jeux d'envergure comme ça, c'est beaucoup de ressources nécessaires.
Voilà. Malheureusement. Écoutez, merci pour ces VHS. Je pense qu'on va passer au Game Shark. Game Shark. Le Game Shark, vous le savez, c'est la chronique de Fibre Tigre qui, ce mois-ci, a décidé de nous parler des fins des jeux vidéo, et plus précisément, les fins boutons. Déjà, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit?
Alors, je sais que sur Internet, les réseaux sociaux, nos auditeurs en particulier, vous adorez quand on vous spoil, et vous nous faites plein de petits bisous quand on vous raconte la fin des jeux. Donc, si ça vous plaît pas, ben, allez faire une partie de Flappy Bird, et puis revenez pour la chronique de Michel, hein. Donc, les fins boutons, c'est quoi? Alors, c'est un jeu qui dit il y a plusieurs fins possibles. Ok, merci.
C'est cool.
Mais quand tu arrives à la fin, t'as genre trois boutons, et je blague pas, t'as trois boutons, et t'appuies sur le premier bouton, t'as la fin 1, t'as la fin 2, t'as la fin 3. Voilà. Donc, concrètement, c'est pas des mini-jeux qui font ça. Hein. Ouais. C'est des énormes jeux comme Deus Ex, HL, où t'as vraiment des boutons. Mass Effect 3 qui a créé un déchirement total. Et plus récemment, alors de façon modérée, ne me sautez pas dessus, dans Stanley Parable. Alors, est-ce que c'est à vertu parodique ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas...
Ouais, moi, je ne peux pas revenir à la fin pour... là, je suis en train de me faire spoiler Stanley Parable, là. C'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais.
Mais tu peux aller jouer à Flappy Bird, hein, je vais dire un autre.
je vends un iPhone 60 000 $ avec, hein, si vous voulez.
Donc, franchement... je caricature pas. C'est exactement ça. Donc, c'est un énorme problème, outre le fait que ce soit pas créatif et que t'en as pas pour ton argent, c'est que ça nous rend complètement schizophréniques. C'est-à-dire que, par exemple, Michel, qui est en train d'essayer de faire Just Cause 2 à 100%, il va revenir dans 20 ans, il l'aura fait.
Il a du courage.
Voilà, c'est ça. Donc, on essaie de faire les jeux au maximum. Il y a des collectibles de partout, il y a des achievements, on est motivé pour faire ça. On vous donne, vous avez 1 million de pièces à collecter, monsieur. Eh bien, tout le jeu, vous en collectez 9997, excusez-moi, il ne reste plus que 3, il faut en choisir une. D'ailleurs, vous n'aurez pas la fin. OK? Et si, toutefois, vous voulez vraiment la jouer réglo, c'est-à-dire vous rechargez une sauvegarde, vous prenez une autre fin, quand c'est possible, hein, parce que ce n'est pas toujours possible avec les sauvegardes, eh bien, du coup, vous aurez vécu les 3 fins différentes, donc vous n'aurez pas choisi laquelle. Et quand vous vous endormez, vous partez avec laquelle dans vos rêves? C'est-à-dire, est-ce que vous avez sauvé le monde ou est-ce que vous n'avez pas sauvé le monde?
Oui.
Voilà, est-ce que vous avez... bon, donc c'est un véritable problème. Donc, j'exclus des fins comme, de jeux comme Fallout, où vous faites des actions dans le courant du jeu, et puis à la fin vous avez un bilan de votre action. Là, c'est des fins avec plusieurs
là le problème là, c'est quand il s'agit du dernier choix, il n'y a que ce dernier choix qui compte, c'est la seule touche qui va compter, c'est la touche qu'on touchera à la fin.
Voilà, mais en plus comment dire, en faisant abstraction que ce sont des fins pourries, tu prends juste le concept,
c'est déjà dur, hein.
Ouais, non, mais tu prends juste le concept. Tu tapes 1 milliard de quêtes, 1 milliard de trucs. T'as génocidé dans Mass Effect 3, mais des peuples en pagaille. Et tu sauves pas le monde avec du sel ou du poivre en appuyant juste sur un bouton, quoi. Je veux dire, un bouton physique, mais pourquoi pas au début du jeu, on n'est pas allé dans la putain de pièce pour appuyer sur le bouton, comme ça, ça aurait été fini, et on aurait fait peut-être quelque chose de bien. Et je veux dire, on ne séduit pas une femme, on ne crée pas une entreprise, on ne parvient pas au bout de ses rêves en appuyant sur un bouton.
Ça serait bien.
Voilà. C'est inexcusable, parce que d'autant plus que dans les classiques du jeu vidéo, alors vous allez me dire, je radote, je parle toujours la même chose, mais par exemple, je vous prends un exemple, dans Indiana Jones and the Fate of Atlantis, la séquence de fin, elle dure 30 minutes. Elle est, d'ailleurs, elle est, la musique dure 30 minutes également, donc c'est pas une loupe, voilà, ça a été pensé. Et c'est un dialogue complet du héros contre ses adversaires. C'est donc un labyrinthe virtuel de dialogue, mais solide en relation avec toute l'aventure, qui conclut et qui est la dernière épreuve mentale du héros. Et là, c'est quelque chose, Mass Effect s'y prêtait complètement, et je sais pas, manque de budget ou je sais pas quoi, on appuyait sur un bouton, c'est trop dommage.
Manque de budget.
Peut-être manque de budget. Hein.
Mais il n'y a pas eu un DLC qui a été un scandale également sur la fin de Mass Effect 3.
Non, si, après ils ont essayé de... Parce que par exemple, tu sauves ou pas les Krogan, et donc c'est quand même un choix majeur, tu décides de génocider ou pas une population, et à la fin, à la scène de fin, tu voyais genre quatre pauvres créatures qui regardaient le ciel, tu vois, et tu disais, ah, il se passe quoi, tu vois. Donc là, ils ont fait une sorte de DLC qui étoffait un petit peu les choses, mais le mal était fait.
Et tout ça parce qu'ils ont reçu trop de courriers d'haters en plus, donc ce qui prouve que finalement ça sert à quelque chose.
Envoyez-nous-en.
À ce niveau-là, ce que j'ai envie de dire, ça m'a rappelé beaucoup la fin de Far Cry 3 qui a exactement ce syndrome où tu te tapes toute une aventure pas possible pour avoir deux choix de fin qui sont toutes les deux pourries de surcroît en plus. C'est ça qui est peut-être le plus scandaleux, alors que quel est l'intérêt, sachant qu'on va tous pouvoir aller sur YouTube récupérer notre fin, la fin qui nous intéresse. Vu la durée du générique, vous avez le temps de sortir du jeu, d'aller sur YouTube, de voir la deuxième fin, que le générique de la première ne sera toujours pas fini.
Oui, on sent un petit peu la patte des financiers qui disent les jeux avec des fins font 10% de plus de ventes, faites-nous plusieurs fins. Voilà, quoi qu'il arrive.
Feature bonus.
Voilà, et bon, c'est très dommage. Voilà.
Je sais pas si c'est vraiment une feature, enfin un truc qui décide
un
achat.
J'ai dit ça sent la feature hein, maintenant.
Mais est-ce que ça décide vraiment un achat? Tu dis, ouais, il y a un truc, il y a 30 fins, parce que dans les années 90, effectivement, au début des années 2000, c'était un vrai argument de vente, genre, ah, plus de 30 fins différentes, blablabla. Bla, bla. Maintenant, les années 2010, l'homme est pressé, l'homme moderne, il n'a plus le temps. Il faut être tout à fait honnête. Donc, au bout de trois fins différentes, il dit, ouais, c'est bon, je vais pas me saouler à regarder.
Je m'inscris en faux. En tant qu'ancienne gloire du journalisme jeux vidéo, c'était il y a longtemps maintenant, je me souviens et qu'il était quand même quelque chose sur lequel insistaient beaucoup les éditeurs de jeux de, attention, il y aura plusieurs fins. Et on pouvait.
Plusieurs, d'accord.
Certains ont même essayé de le faire avec des Call of Duty tout de même. Donc, c'est vous dire, c'est quand même.
Oui, mais je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs fins. Ça vous donne un sentiment de liberté. Vous choisissez votre propre destinée à la fable, tu vois. Mais quand on est dans un couloir et qu'à la fin il y a juste une porte verte, une porte rouge, hein, Wink, Stanley Parable, je sais pas, par exemple, bon voilà, c'est je spoil rien, il y a rien à... enfin c'est pas ça l'essence du jeu de voilà, donc
c'est fou, hein, les gens qui te spoilent en plus ils t'engueulent, ça je trouve ça scandaleux, quoi. Genre mais ça va, je te spoil pas,
c'est son père
depuis le début.
Une mini parenthèse sur le spoil, c'est que aujourd'hui sur internet, Twitter notamment, on spoil, c'est la fin du monde.
Oui.
Donc, pas corollaire, la seule chose qui vous intéresse, c'est l'information d'Arya Stark meurt. Donc, corollaire, la qualité esthétique du film ne vous intéresse pas.
Si, mais ça, c'est
moi,
des
je vais vous dire un truc. Moi, je me spoil auto, c'est-à-dire je vais sur Wikipédia, je regarde la fin, et comme ça, je suis tranquille, je peux regarder comment le mec du sixième sens, il a vraiment monté le truc, tu vois.
Parce que c'est le chemin qui compte, pas la destination.
Exact. Oh là là.
Voilà.
Il y a du haut niveau ce soir.
Il y a du la punchline. Il y a du niveau.
On a bossé un peu plus en 2014. On passe tout de suite au courrier des haters. Le courrier des haters, vous le savez, à chaque numéro, nous épluchons les mails les plus haineux que peuvent recevoir les développeurs de jeux vidéo à travers la planète. Et cette fois-ci, on commence avec un mail écrit pourtant en français à Square Enix, immense éditeur japonais s'il en est.
Cher Square Enix, j'adore les chocobos. Oui, je les adore, avec des petits légumes et de la sauce saté.
Oh.
Parce qu'à part les bouffer, je vois vraiment pas ce qu'on peut en faire. J'en peux plus des chocobos, je n'en peux plus. Qu'une bonne âme m'explique à quoi sert cette survivance absconse et parfaitement grotesque des années 90. Vous imaginez un peu, Square Enix, si tout le monde faisait comme vous ? On garde nos vieux fonds de tiroir pourris des années 90, ça a bien marché pendant 5 ans, allez roule ma poule ? Scandale. Je n'aime pas céder à la facilité des insultes, mais on peut dire que vous savez me rendre Square Enix amer. Il faut grandir à la fin. Chocobo inanimé, volaille hydrocéphale aux yeux vitreux. Je ne vous demande pas si vous avez une âme, je connais la réponse, c'est non.
Alors, Square Enix est quand même un peu choqué qu'on puisse se procéder à de la mangeaille, j'ai envie de vous dire, avec ces chocobos, et ils ont quand même adressé une réponse.
Oui, réponse de Square Enix. Cher joueur, vous n'aimez pas les chocobos ? Fort bien. Jouez donc à Final Fantasy XIII-2, où les chocobos sont désormais des créatures que l'on peut combattre et vaincre. En fait, vous n'avez rien compris à Final Fantasy. Je parle pas du scénario, ça, personne n'a jamais rien compris. Je vous parle de Final Fantasy, l'anti-tragédie du chocobo. Le chocobo était un animal en voie de disparition. Dans Mystic Quest, donc Seiken Densetsu, le héros sauvegarde le dernier œuf de chocobo. Puis ils apparaissent dans les Final Fantasy à partir du 2, puis ils commencent à avoir plusieurs espèces, plusieurs aptitudes, plusieurs couleurs. Au final, le chocobo, qui était une espèce en voie de disparition, devient si à l'aise dans son univers qu'il devient un ennemi à combattre. Le chocobo est plus que l'arbre mana, l'incarnation de notre mission de sauvegarde des espèces. Grâce au chocobo, nous apprenons aux jeunes générations que le panda, le poisson Napoléon ou l'avis nuancé sont des espèces rares qu'il nous faut protéger. N'entravez donc pas sa noble mission.
En attendant Final Fantasy, 30 millions d'amis. À moins que vous ayez peut-être une réaction à
oui,
faire.
Oui, Chocobo est inférieur à Chocobon.
Ça c'est clair, c'est clair, c'est clair. En autre courrier peut-être, je crois que vous avez ça. Fibre Tigre, tu as trouvé un courrier adressé à toute l'industrie du jeu vidéo.
Oui, écrit en
caps. Ça en fait du monde.
Écrit en caps lock, alors je vais pas hurler pendant tout le courrier. Adressé à toute l'industrie du jeu vidéo de la part de Hater Suprême.
Quand même, non, le pseudo est swag.
Stop aux jeux multijoueurs dans les licences solo. Je vais essayer d'être clair et d'utiliser des mots simples. Quand on achète un GTA, on veut jouer à GTA. Quand on achète un Assassin's Creed, on veut explorer l'histoire en zigouillant des gens. Quand on achète un Battlefield, oui, on veut s'entretuer avec ses potes. Quand on achète un Street Fighter, oui, on veut taper sur le mec à côté. Aïe, c'est fini l'époque où il fallait rajouter des petites features à la con pour qu'on achète Unreal plutôt que Quake. Bonnet blanc plutôt que blanc bonnet. Vous inquiétez pas Rockstar, s'il n'y a pas de multijoueur dans votre GTA, je pense que Microsoft acceptera que vous soyez sur Xbox One. Le fait est qu'avec le budget multijoueur de GTA V, vous auriez pu vous payer un demi-scénariste de plus peut-être. Vous niquez vos jeux avec vos délires de multijoueur. Un solo, je peux y revenir dans 25 ans. Votre multi, c'est fini dans 2 ans. Alors arrêtez d'écouter vos financiers, faites-nous de beaux jeux et laissez-nous y jouer seuls.
Ça, c'est une vraie déclaration et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont applaudir devant leur ordinateur ou dans la rue s'ils sont en train d'écouter cette émission en podcast. Pourtant, l'industrie a envoyé une réponse automatique.
Oui, c'est une réponse automatique. C'est un Mailer Daemon, figurez-vous. Mais un peu plus élaboré.
Bonjour Mailer Daemon, merci de nous écouter.
Ça fait plaisir. Cher ami et néanmoins client, ceci est un mail automatisé de toute l'industrie du jeu vidéo. N'essayez pas d'y répondre. Malgré les apparences, nous n'effectuons pas une maintenance des serveurs mail. Nous n'effectuons pas non plus de travaux castor sur le RERC. Inutile donc d'emprunter de bus de substitution. Non, voyez-vous, nous sommes simplement en train de célébrer les excellents scores de Call of Duty 2013. D'accord ?
Pas Ghost, 13.
Toujours le même joujou tous les ans pour Noël. Et vous l'achetez, encore et encore. Ça y est, ça percute ? Voilà. Vous dites que vous aimez les jeux vidéo sans multijoueur, et nous vous en remercions, c'est bien. Par conséquent, nous vous invitons à vous tourner vers les jeux suivants. Bill Bokeh, Toupie Beyblade, Hamster Zouzoupette, ou bien Livre Illustré. En vous souhaitant une bonne réception de cet email impersonnel, qui rompra un temps la totale solitude qui est la vôtre, signé toute l'industrie du jeu vidéo.
Est-ce qu'on s'arrête quelques instants sur ce mail ?
Le problème du multijoueur, je pense que c'est qu'il n'a pas évolué au fil du temps. C'est-à-dire que quand le multijoueur a émergé dans les LAN, dans les cybercafés 1995, on jouait à Duke Nukem 3D et on se latait un peu la gueule avec ce jeu. Et aujourd'hui, c'est quasiment la même chose. Voilà.
Pas peu de choses près.
Voilà. Et c'est dommage, s'il avait évolué, il aurait de l'intérêt. Aujourd'hui, il monopolise beaucoup de techniciens et de budget, malheureusement. Voilà.
Pour ça. Michel, quand tu ne tousses pas, est-ce que tu
Entre deux quintes, je vous dirais ceci. Je trouve que c'est un peu excessif que de dire que le multijoueur n'a pas évolué depuis les années 90, du moins l'âge d'or du jeu en multijoueur. Il y a certains exemples récent et assez cinglant de refus de mode multijoueur.
Exemple ?
Je pense à BioShock Infinite, pour commencer. Je pense aussi au four et presque un échec programmé du mode multijoueur de Spec Ops The Line, qui était intégré à l'arrache et qui a fait l'objet d'un post-mortem de la part des développeurs qui a dit c'est une demande de contractuelle de l'éditeur, on a fait ce qu'on nous a demandé mais c'est de la grosse merde et on est absolument pas d'accord, le jeu ce n'est pas ça, le jeu c'est l'expérience solo. Donc je pense que les choses évoluent un petit peu, autant il y a 2 ans effectivement c'était presque automatique. Il y a des gens qui cherchent, qui tâtonnent, qui persistent, pas dans l'erreur, mais qui persistent. Je pense à Assassin's Creed comme toujours, parce que j'y pense tout le temps. Proposer un mode multijoueur.
Il y a eu Journey.
Donc c'est pas vrai de dire qu'il n'y a rien eu.
Oui, mais c'est tellement minoritaire. Un jeu sur les 30 qui sortent chaque année.
C'est pas vous, monsieur, qui avez fait un truc concernant Demon's Soul et le fait que c'était génial de pouvoir laisser des messages.
C'est une exception, mais c'est une exception
million seller.
Non, mais le problème, la différence entre Dark Souls et on va dire le multi de Spec Ops, c'est que dans Dark Souls, le multijoueur est intégré au gameplay et ça enrichit le gameplay. Et d'ailleurs, le multi se joue en même temps que le solo. Le génie, quoi.
Mais c'est bien, ouais, ça apporte de l'eau à mon moulin. Ça veut dire que le multijoueur peut aussi, en 2013-2014, être repensé et réinventé.
Vous écoute.
Mais le problème, effectivement, c'est sur ces jeux où on vous rajoute un multi à Tomb Raider, alors que si tu veux jouer à un jeu multi, bah, tu sors ton Call of Duty, puisque tu l'as déjà en général. On voit mal ce chose-là. Et il commence à y avoir un petit recul. On parlait de BioShock Infinite qui a été fait. Il y avait aussi sur Metro Last Light où c'était le nouveau patron de THQ qui s'était battu pour leur dire non, mais retirez la clause du contrat, les forcez pas à faire un multi, laissez-les s'occuper du solo, c'est déjà très bien comme ça.
BioShock Infinite, je soupçonne le développeur qui avait repoussé de 6 mois que simplement ils n'ont pas eu le temps de le faire.
Quoi. Un temps, ça avait été envisagé aussi. Ils ont fini par le laisser tomber. Espérons que ça passe dans les années qui viennent. Et passons tout de suite à la prochaine chronique, le Game Genie. Le Game Genie, vous le savez, c'est la chronique de Michel Pimpant. Cette fois-ci, Michel, tu vas t'interroger sur quelque chose de particulier, sur les audiologues, ces espèces de petits fichiers audio qu'on se retrouve un petit peu dans tous nos jeux vidéo à ramasser partout.
Exactement, Alvin. Figurez-vous que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu jouer à des jeux vidéo. Et aussi étrange que ça puisse sonner, quand j'ai envie qu'on me raconte une vraie histoire... Eh bien, figurez-vous que moi, je lis un livre, je lis une BD, ou même, je regarde un film.
Mais pas un jeu vidéo, donc.
Pas vraiment. Non, voilà, c'est ça le problème. Alors, moi, ma question, c'est pourquoi, j'ai envie de le crier même, cette obsession moderne, post-moderne, pour les logs audio, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'expression, les logs audio, ce sont donc ces journaux éparpillés, qui sont des espèces de tranches de vie, et c'est un peu éparpillé dans l'univers du jeu. Et ce serait, c'est pensé pour rentrer dans la tête des personnages. Mais alors, pourquoi cette obsession ? On les trouve partout. BioShock, on en parlait, Spec Ops, on en parlait aussi, Dead Space, Tomb Raider, Halo, Transformers, j'ai mis Transformers, hein, c'est pour vous dire un peu le niveau. Borderlands, Far Cry, Assassin's Creed, encore lui, Gears of War, partout. Ils sont partout. À telle enseigne qu'on pourrait conclure que le genre roi du jeu vidéo n'est pas le FPS comme c'était le cas encore il y a 5 ans, c'est pas non plus le sandbox à la GTA ou le Just Cause 2, big up, ou Centro. Nenni, les amis, ce n'est plus ça le genre roi du jeu vidéo. Le genre numéro 1, c'est l'audiologue game, l'ALG.
Ok, alors pourquoi ça et qu'est-ce que ça implique ?
Bah, maintenant qu'on s'est bien échauffé sur ce sujet-là, on va prendre un petit peu de recul. Les journaux audio en question, les audiologues, c'est effectivement une convention narrative. Bon, très bien. Il s'agit pour le game designer d'exposer des événements qui n'ont pas eu lieu en présence du joueur ou l'avatar du joueur.
Parce qu'en plus, c'est toujours très naturel, c'est vraiment quelqu'un de « Oh là là, je suis un petit chercheur de Dead Space et je suis dans mon bureau, il va y avoir une grosse catastrophe, mais je vais parler dans mon dictaphone. » Et c'est vrai que c'est quand même incroyable dans ces jeux où tous ces gens qui ont l'habitude de s'enregistrer sur dictaphone, je sais que vous le faites tous souvent à la maison.
Bah oui, voilà, c'est ça, c'est que là, pour le coup, la suspension du disbelieve, comme on dit en franglais, c'est pas top top. Et surtout, quand tu parlais de ça, ton dictaphone, ça me faisait aussi penser à, pour moi, le point noir unique sur The Last of Us, c'est précisément ces journaux, ces logs, ces audiologues qui ne servent à rien. Ils sont bien faits, etc. Parce que l'univers est très très cool, c'est très très bien écrit. Mais alors, honnêtement...
Qui va se prendre une heure pour tous les écouter, quoi.
Je ne les ai pas écoutés et j'ai vécu, d'un point de vue narratif, une expérience hyper intense et l'histoire est très très cool et pour moi, The Last of Us, c'est vraiment un point d'arrivée du jeu vidéo qui est super intéressant.
Ces audiologues restent facultatifs, donc ce qui fait que ce qui est dedans n'est pas forcément très intéressant ou pas forcément crucial pour l'histoire, et finalement on n'est pas non plus poussé à aller les écouter, on va rien apprendre, il n'y a pas d'éléments déterminants comme un mot de passe ou ce genre de choses qu'on va trouver dans ces audiologues.
Non, ça peut arriver effectivement. Rarement exploité par le gameplay de manière directe, mais effectivement c'est ça porte de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire que l'audiologue reste un gros boulet parce que ça reste un artifice qui dans le cadre du jeu nous tire vers le bas. Alors, je dirais que il faut quand même reconnaître qu'il y a des audiologues absolument admirables et incroyablement bien traduits en français. Je vous renvoie à BioShock, premier du nom.
Il s'envoie des fleurs.
Merveilleux. C'est assez incroyable. Bref.
Non, ils sont bien interprétés surtout. Il faut quand même des doubleurs pour les jouer.
Oui, il faut de très bons doubleurs. Ça, je suis d'accord.
Mon nom est Andrew Ryan.
Mais ça c'est pas.
Laissez-moi
c'est
vous poser une simple question.
c'est pas un audiologue. Mais à mon sens, donc concernant ces journaux, l'audiologue. La puissance que pouvait contenir l'audiologue dans le cadre du jeu, l'audiologue est mort quand c'est devenu un nappage, un espèce de truc en plus, un accessoire, une espèce d'excroissance. Et j'ai envie de m'adresser au développeur, donc ce qui se ressemble le plus, c'est toi, Fibre Tigre. Messieurs le développeur, mettez-nous des histoires dans la bouche des personnages. Il y a des personnages non-joueurs aussi. Mettez des histoires dans la bouche de vos personnages. Mettez des histoires sur les murs de vos forteresses. Mettez des histoires sur les visages de vos grands méchants. On a l'impression d'un poème de Éluard, mais il n'y a rien à voir. Mais mettez des histoires là, partout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs chelous. Et l'audiologue, ça ne sert à rien. Et vous savez, parfois...
Ça sert à un truc, c'est justement.
Bah, vous savez peut-être parfois que les jeux proposent des achievements du type récupérer tous les logs, etc.
30G, c'est utile, moi je suis désolé.
Et 30G, on crache pas dessus. Moi, ce que je suggère humblement à nos amis game designers, c'est le challenge. Écoutez tous les audiologues jusqu'au bout, parce que ça, les amis, ça c'est un achievement.
Et je crois qu'aucun jeu n'a encore osé le faire. Quelle est ta position sur les audiologues?
Alors, j'ai une mini-anecdote personnelle, un peu narcissique. C'est que j'étais tellement... charmé par mon nom et Andrew Ryan, que je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça dans ma vie, je veux faire ça. Et j'ai créé Bonjour, c'est Fibre Tigre.
Ah, ça vient donc de là. Voilà.
Et j'ai trouvé ça tellement marrant en plus, parce qu'il y avait marqué Andrew Ryan partout. On le voit un mec, on dit, tiens, c'est Andrew Ryan. Il dit, bonjour, c'est Andrew Ryan, c'est un peu à la Orson Welles, quoi.
Ouais.
Et donc, du coup, sur Internet, c'est amusant parce qu'on voit Fibre Tigre et je mets Bonjour, c'est Fibre Tigre. Donc, on sait que c'est moi, mais c'est bon, voilà.
C'est le double.
Mais j'étais marqué par ça. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote. Non, je suis à l'opposé total pour changer de la chronique qui a été faite. J'adore les audiologues. Ok. Et mon jeu un de mes jeux préférés.
Honnêtement, dans une partie, tu t'arrêtes, tu ramasses un audiologue, tu dis chouette, je vais attendre 2 minutes, je vais écouter pendant 2 minutes un truc avant de pouvoir reprendre la
partie.
Alors,
non seulement je vais dire ça, mais je vais aller plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, je joue à. Un de mes jeux préférés, c'est Unreal. Donc le premier de 1998, dans lequel on avait un FPS avec des audiologues. Et là, vous allez tout de suite comprendre la puissance de l'audiologue. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est facultatif, donc chouette, on n'a pas. Mais ouais, tu peux faire le jeu que tu veux. C'est-à-dire, tu peux être la brutasse de Dead Space qui traverse, qui a peur, qui fait ce que tu veux, ou tu peux être le mec qui veut récupérer le testament intellectuel de tous les gens qui sont passés là. Et dans Unreal, vous avez une série de niveaux qu'on avait depuis Quake ou depuis Wolfenstein 3D. C'est-à-dire, on savait qu'il fallait arriver au bout du niveau.
En shootant plein de gens a priori.
Exactement. Mais l'audiologue. Donner un vrai but spirituel, c'est-à-dire que en fait, pendant la moitié du jeu, on cherche une scientifique qui a disparu et on retrouve ses traces qu'elle a laissées. Et puis à un moment, on la retrouve, malheureusement, elle est morte. Il y a son audiologue à côté. Et ça a été la même chose qui a été reprise, sinon pompée, dans System Shock 2. Parce que je veux pas spoiler, mais il se passe un truc qu'on voit dans tous les chocs, hein, voilà. Et du coup, ça a tellement marqué les esprits qu'on a fait BioShock. Et donc, c'est d'une part, c'est l'essence de la liberté, l'audiologue. Michel évoque de tous ses vœux en disant, mettez-nous des dialogues dans la bouche de gens. Mais moi, je vous dis, personnellement, vous allez dans un jeu vidéo où vous avez autant de dialogues que d'audiologues avec des gens et il faut écouter les bras croisés ce qu'ils disent, mais vous pétez les plombs.
C'est vrai.
Je veux dire, vous cassez tout. L'audiologue, ça vous permet de flinguer des mecs en écoutant la vie des gens.
Ça dépend des jeux. Dans certains jeux, on est obligé de rester dans le menu pour les écouter. Là, c'est dans le cas où ça t'accompagne en même temps tes actions.
Et je vais prendre la némésis absolue totale et vous allez tous bondir, c'est Assassin's Creed 3.
Oh.
J'ai regardé, j'ai lu toutes les descriptions de la moindre petite église
moi,
de
merde.
Moi,
j'appelle ça un appel au secours. Hein.
C'est clair.
C'est un appel au secours.
Non, non, et je vous invite à le faire.
Call 911. Call 911.
Non, non, attendez.
Le surnose en Europe.
Non, je l'ai eu. Et je vais vous dire quelque chose. Premièrement, j'ai appris des choses parce que c'est la, la
c'est documenté.
C'est historique. Et en plus, c'est drôle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est
ouais,
un anglais.
Là, il est au bout. Il est au
c'est
bout.
Un anglais. C'est un anglais qui écrit l'histoire de la, des Américains. Ouais. Mais tu vois, il s'en moque un peu.
C'est
il
Sean,
est un petit
ouais.
peu.
Sean.
Et...
On parle
non,
de Sean.
Quoi
alors,
on parle
pas
de Sean.
Mais Sean, Sean n'est pas drôle. Enfin, c'est d'une tristesse absolue ce que tu viens de dire. Si.
Non, non. Franchement, j'ai préféré. Et, du... et en fait, les autres.
Alors, là, tu avais été parti sur les descriptions. C'était une question que je voulais vous poser. Est-ce que sinon, il suffirait pas le fait que ça soit joué en audio, qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que je me souviens des premiers Resident Evil où c'était ce côté épaississement des personnages ? C'était juste des documents. En général, en plus, on avait une petite image pour que ça ouais. soit un carnet un peu abîmé ou c'est juste vrai. Un post-it ou des trucs comme ça. Donc, on peut quand même visualiser le contexte ouais. par l'objet sur par l'objet qu'on lit. Puis après, on se contentait de lire et ça donnait suffisamment d'épaisseur et on n'avait pas à attendre 40 secondes. Moi qui lis plus vite que j'écoute, je pense comme à peu près toutes les personnes, ouais. c'est moins saoulant. Est-ce que ça a un vrai apport de le mettre en audio ou pas ?
Plus maintenant, monsieur.
Alors, récemment, j'ai été à une conférence sur la narration dans les jeux vidéo, où il y avait des grands monsieur, et un interlocuteur qui s'appelle Étienne Perrin, qui vient de sortir la dernière version de Zorbi, a dit « Aujourd'hui, ce qui est regrettable dans la narration d'un jeu vidéo, c'est que l'interface ne raconte plus d'histoire. Mmh. » Voilà, donc ça rejoint un
mais
peu
avant,
ça.
Mais avant qu'on en vienne à l'interface, qui effectivement ne raconte plus d'histoire, ça je suis d'accord, ce que je soutiens, c'est que les PNJ peuvent parler davantage. Il ne s'agit pas de faire des tartines, c'est une question de nuance.
Mais même trois secondes devant un PNJ sans bouger, c'est trop.
C'est, non,
trop,
c'est déjà
c'est
beaucoup.
Trop pour un Borderland, tu vois. Et il faut que ça pulse, il faut que ça aille vite, tu vois.
Ah, tu parles comme un financier, ça me fait vraiment de la peine.
Non,
ça
mais
me
c'est,
fait quelque
c'est ce
chose.
Type de jeu. Non, mais c'est pour ça qu'aussi Assassin's Creed, qui est un jeu qui démarre très très lentement, il faut 6 heures pour que le jeu démarre. Hein, 6 heures.
Ce que je trouve scandaleux personnellement. Hein.
Oui, vous l'aimez ou pas, Assassin's Creed 3. Hein. Et justement, vous avancez tout doucement, vous avez ces audiologues. Moi, j'avais la chance de ne pas être dans une vie stressante à ce moment-là. Je l'ai lu comme
t'avais
un roman.
6 heures devant toi, mais c'est juste, c'est juste que voilà, c'était le week-end du Téléthon. Tu savais que la télé c'était pourri, tu ne pouvais pas regarder quoi que ce soit à la télé, tu t'es proposé.
Mais d'ailleurs, les audiologues de Assassin's Creed 4.
Attention, hein, ça commence à bien faire. Hein.
Non,
justement, ils ne sont pas très bien. Ah. Parce que le parti pris d'Assassin's Creed 4, c'est de dire.
Il va tout nous spoiler. Le mec, il va spoiler.
En plus,
non, non, mais je vais vous spoiler une seconde d'Assassin's Creed 4. Non, Assassin's Creed 4, le parti pris des audiologues, c'est de dire. C'est des développeurs de jeux qui échangent en disant
oui.
Tiens, la cathédrale machin, est-ce qu'on la mettrait ? Oui, mais ça va être difficile à modéliser ça. Ça, c'est à se pendre, quoi.
Il y a du méta dans mon méta, quoi.
Voilà, c'est trop méta.
C'est beaucoup trop loin et je pense qu'on se mettra pas d'accord ce soir sur ce sujet-là. On va passer au Final Lap car le temps file. Alors, Final
oui.
Lap.
Final Lap.
Le Final Lap, c'est la petite question de la fin, vous la connaissez, on va parler un peu plus d'actualité du jeu vidéo avec une grande question qui va animer toutes ces années 2014, je le pense. La voici. En début de mois, Sega dévoilait devant des joueurs horrifiés Sonic Boom et ses Shitty Friends, ça c'est traditionnel, c'est logique, avec une série animée Made in France pour Gulli et un Knuckles avec des bras juste super longs qui font un peu peur à tout le monde. La question, la voici, y a-t-il un vétérinaire pour sauver ou euthanasier Sonic ? Parce que pour les animaux, c'est légal. Alors est-ce qu'il faut euthanasier Sonic ? Est-ce qu'il faut laisser sa chance à Sonic Boom ? Allez-y, le débat est ouvert. Michel Pimpon, toi, tu es plutôt Sonic. Alors, effectivement, il faut situer les choses.
Alors, je suis...
Fibre n'est pas vraiment client.
Je suis anti-Sonic et lui, il est pro-Sonic. Voilà.
À peu de choses près.
Alors, ça m'étonne qu'à moitié de. Bah, de
attends,
part
tu sais quoi,
d'un
tu sais quoi,
pro
attends,
Atari ST.
Attends, je vais parler anti-Sonic, comme ça, tu termineras sur une note positive. Comme ça, on est une émission positive.
Allons-y.
Alors. Sonic n'a aucun intérêt à mes yeux.
Non, mais il va falloir développer un peu.
C'est un jeu mineur, malheureusement. Tout à l'heure, j'ai dit que, avant l'émission, je précise que j'ai dit que Sonic c'était le Mario du pauvre. Et ce à quoi Michel Papon, qui va défendre Sonic, a dit non, c'est le Davilex des plateformers. Je veux dire, vraiment, on en est. Hein.
Je suis obligé d'attester que c'est parfaitement authentique en plus.
Voilà, c'est ça. Donc,
mais aucun problème.
Donc, il va, tout à l'heure, là, il va expliquer pourquoi.
Tout
en fait, c'était de l'ironie, je sais pas quoi. bon, bref.
Mais non, mais pas de problème.
Tout ça pour dire que j'espère que ce sera une série animée vraiment très moche, parce que jusqu'à présent, toutes les séries animées de Sonic étaient pourries, donc il faut vraiment que la France fasse une série pourrie pour être dans la norme. Hein.
C'est bien et, parti pour, honnêtement.
Voilà, et pour euthanasie, je suis contre l'euthanasie. Par contre, si on voulait bien discrètement faire mourir, laisser mourir cette hérisson, pourquoi ? Parce que je vois des gens comme vous qui adoraient ce hérisson, et depuis des années, il leur fait tellement de mal. À chaque fois que le hérisson sort, vous dites oh, « ça va être génial !» Et c'est pourri, c'est le Sonic Cycle. Et moi, vous savez, je suis heureux, parce que je m'en fous de Sonic. Je suis jamais déçu.
Alors, on va laisser Michel répondre, mais alors justement, on en vient à une des questions que j'avais prévues. On sait à chaque fois qu'on va être déçu avec Sonic, et à chaque fois, ça nous fait très très mal. Pourquoi ça nous fait aussi mal?
Bah, ça fait super mal, parce que ce qui vient de se passer, c'est le geste de Sega, s'il faut se résumer, c'est pas vraiment un Sonic Boom, qui est donc serait un coup spécial, c'est plutôt une espèce de... Ça ressemble à une quenelle, hein, très honnêtement. Bah, c'est une grosse quenelle vidéoludique. Genre, vous aimez Sonic, et ben pas nous.
Vous l'aimez plus.
Donc, c'est quand même très triste.
Parce que c'est pas la première fois qu'on voit Sonic, on voit que ça va pas être un bon Sonic, et on n'est pas déçu en général.
Le Sonic Cycle, c'est quand même une invention de gens qui doivent être payés à vivre sur Internet ou à rester sur Internet ou à écrire sur Internet, j'imagine. je pense que toute l'énergie qui a été dépensée à détourner Sonic sous forme de mème, sous forme de DeviantArt, il y a des trucs dégueulasses.
Ils sont vraiment sales.
Et c'est très drôle, mais très dégueulasse.
D'ailleurs, on a dit que DJ Pai adorait les furries. Il adore aussi Sonic.
Mais, non, mais moi aussi, il adore Sonic. Les shippings chelous.
Il adore les trucs chelous, mais il a raison. Ça, c'est très drôle. C'est très drôle, mais il faut être au 12e degré d'alcool.
Mmh. Et quand on a une manette et qu'on veut jouer à un jeu vidéo, appelez Sonic.
Sonic, je pense qu'il faut se faire une raison. Nous ne sommes pas des machines ici, à l'exception de Fibre, nous ne sommes pas des machines, donc nous avons un cœur qui bat, la chamade, et bien sûr quand on parle de Sonic, on repense à nos 9 ans, nos 10 ans, nos 11 ans, et on se dit... C'est possible d'aller vite avec les chaussures rouges. Non, mais jamais de la vie, on a eu ce débat, arrêtez.
Quelle mauvaise foi. Je vous trouve beaucoup de mauvaise foi, attention, vous allez avoir des points, des points de malus.
C'est quoi, je respecte votre enfance.
Tu parles, tu respectes votre enfance. Bonjour, c'est Fibrotique, je vais vous spoiler 10.
Non, je respecte votre enfance. Maintenant, j'aimerais qu'un jour, objectivement, vous disiez si un petit jeune, il n'avait jamais connu ni la Mega Drive ni la Super NES, qu'est-ce que vous lui auriez offert?
Mega Drive.
Ouais, ok, bon.
Mais on en a déjà parlé tout à l'heure, la Mega Drive. Il y a cette semaine ce qui est sorti, l'espèce de Transformers, le robot Transformers au Japon qui est sorti en forme de Mega Drive. Suppute, vous êtes invité à supputer chez vous, suppute qu'ils aient fait la même chose avec un robot Transformers Super Nintendo. Est-ce que tu aurais acheté la version Super Nintendo?
Il l'aurait pas fait, parce que la Super Nintendo, ça sert à jouer à des bons jeux.
Non, voilà. Mais ne sois pas plus cartésien que Descartes, bon, SVP. Alors,
Michel, toi qui aimes Sonic, à quel moment pour toi Sonic s'est-il perdu?
Perdu, pas mort, je suis d'accord. Il est parti sur une île.
C'est ça, au niveau 2. Il a traversé l'autoroute, il s'est pas fait écraser alors que certains l'auraient souhaité.
Non, à quel moment il s'est perdu, à quel moment il a perdu son mojo? Je suis pas un historien de Sonic, je suis un amoureux du
hérisson bleu.
Non, dit comme ça, ça fait vraiment chelou, je te cache pas.
C'est vrai.
Après Sonic Adventure 2.
À ce niveau-là, c'est le passage. Finalement, c'est quand Sega est devenu à essayer de vendre Sonic aux autres. Est-ce que ce Sonic est juste mal à l'aise de ne plus avoir sa propre console à lui? C'est peut-être juste qu'il se sent seul ou.
Bah non, parce que Sonic.
Ou il se sent prostitué, peut-être
Sonic justement. Sonic Adventure 2, c'est sorti aussi sur Dreamcast.
Sorti sur Dreamcast, et puis par la force des choses, il a fallu le sortir sur GameCube.
Ouais, mais c'est sorti bien après, je dirais 2 ans après.
Un an après.
Bon, on va pas chipoter en mode Wikipédia, mais je dirais que. Je pense que c'est là que ça s'est joué. Trop de sous-héros, enfin grosso modo ça partait dans tous les sens, des héros et des niveaux thématiques, grosso modo les seuls vrais bons niveaux c'était les niveaux Sonic ou Shadow. Oui.
Attends, j'ai une seule question, est-ce que vous trouvez Sonic...
question de bonne foi.
Oui, enfin non, elle est un peu piège, mais ouais. Est-ce que vous trouvez que Sonic c'est un héros qui est beau ou qui est de bon goût visuel?
Oui, totalement.
Cool, on parlait de Sonic Adventure 2.
Franchement, quand... il est hyper moche, il a une énorme tête.
Non, mais ça,
bleu,
tu
peux...
Mais tu parles lui. Là, tu parles
il a des
chaussures.
Il a des chaussures rouges.
Cool. Et les chaussures rouges. Et on parle pas du parle du premier Sonic. Le premier
vu
Sonic
que t'as appelé 911 tout à l'heure, ils vont venir. C'est toi qui vas embarquer.
J'en suis pas sûr.
Alors, bon, on va pas vous mettre d'accord.
Je veux dire, t'as quand même foutu la merde, Alvin, avec ton histoire de Sonic.
Alors, mais c'est pour ça. Alors, je voulais vous poser une question. De toute façon, je pense qu'il pourrait conclure ce débat. De toute façon, c'était mieux avant. Surtout sur Sonic, en tout cas.
Oui, bah oui, oui.
Non. Ah, si, voilà.
Non. Ça n'a jamais été bien, Sonic.
Même le premier. Mais d'où vient cette haine?
Non, mais attendez, excusez-moi.
C'est un rageux. Il vient d'Internet.
Parce qu'il y a des jeunes, il y a des jeunes gens qui vous écoutent et qui disent oh, putain, Michel Pimpant, je l'admire, j'ai les autres dans les yeux, il dit que Sonic c'est bien, il va jouer à Sonic, il va être hyper déçu par toute l'histoire.
Cher ami de 12 ans et demi, tu nous écoutes, c'est le Final Lap, ça fait quand même environ 8 tours de piste qu'on est en train de faire, qu'on n'arrive pas à boucler. Cher ami, arrête-toi à Sonic Adventure 2 et encore STP, peut-être que tu peux t'arrêter après Sonic 2. Je sais qu'il y a des hystériques qui disent que Sonic 3 il est hyper bien, dadada, et Michael Jackson niveau caché et je sais pas quoi, mais non.
De toute façon,
Ice Capped Zone ou un truc comme ça. Là,
oui, qui...
mais non, non.
Alors, ce qu'on peut dire, effectivement, je pense qu'on peut finir là-dessus, c'est qu'au moins, et on voit là la perte de valeur, malheureusement, qui est financière et boursière à ce niveau-là, effectivement, c'est qu'un jeu Sonic, un jeu Mario aujourd'hui se vend toujours 50€. Aujourd'hui, tout Sonic coûte à peu près 20€ sur Steam. Et je pense que c'est là qu'on voit peut-être que la bataille a été un peu perdue, malheureusement. La dévaluation est quand même nette, fût-il. On l'aime bien, hein, on l'aime bien. Mais c'est vrai qu'il s'est une clochardisation peut-être du Sonic. J'en ai peur.
Vous pouvez pas imaginer ce que vous êtes en train de faire à l'enfant de 12 ans qui est en moi.
Mais pourtant, je l'ai été. J'ai été le même. J'ai commencé à jouer avec une Mega Drive et j'ai dû attendre d'avoir une GameCube pour me faire un Sonic tout seul, un Mario tout seul. Tout se mélange dans ma tête.
Reconnaissons juste cette supériorité de Sonic. Donc nous sommes au 10e tour du Final Lap.
Ouais.
Reconnaissons la supériorité de Sonic 1 sur disons Super Mario World, ce que tu veux, disons le même platformer époque Super Nintendo. Il a un cheat code absolument somptueux là où Super Mario, son cheat code c'est hey,
rien du tout.
Il y a rien du tout.
Ah, alors il y a peut-être un OK, on en parlera une autre fois du dernier secret de Super Mario.
Alors écoutez, revenez nous voir le vendredi 2 mai, ça sera la prochaine émission d'Inférieur à 3. Merci à vous déjà de l'avoir écouté.
Merci à Elvin.
Merci à nos chroniqueurs effectivement, Fibre Tigre, Michel Pimpant, vous les retrouvez assez facilement sur Twitter. Merci à notre équipe de réalisation avec Aspic et Epsi.
Merci les amis.
Deux. On en a besoin de deux là pour nous calmer un petit peu, ça paraît bien nécessaire.
Tu nous demandes un dernier mot et je l'ai préparé depuis 2 mois.
Mais non, il va arriver, okay. Ça va être vraiment pour finir. Les petites informations essentielles, vous nous retrouvez donc toujours sur Radio01.net, vous nous téléchargez, vous nous podcastez, vous le partagez, vos amis, votre famille, votre cousin, votre petite cousine, votre cousin Germain, tous ceux que vous n'avez pas vus depuis des années, ils seront très heureux d'avoir de vos nouvelles et d'écouter Inférieur à 3. Tout ça pour vous dire donc que je pense qu'on peut passer à notre dernier mot. Quel est votre dernier mot cette fois-ci, mes amis?
Spoiler, c'est ça son dernier mot. Spoiler.
Non, mon dernier mot c'est bien, la prochaine fois je prends mon dernier mot c'est congrulation, voilà.
Très bien, et Michel?
Et c'est spoiler. Mon dernier mot, il a spoilé.
Et bien c'est très
c'est
bien,
dégueulasse.
Merci en tout cas à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur Radio 01. Salut.